Jolino Makelele, bonjour.
Bonjour.
Voilà un an que votre gouvernement est en place, mais beaucoup de Congolais sont déçus car ils ne voient aucun changement dans leur vie quotidienne. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
D'abord, les changements. Vous savez que nous venons de loin, il a fallu faire des réformes, dont la plus emblématique, c'est la gratuité de l'enseignement. Cette gratuité a amené près de 4 millions d'enfants nouveaux qui étaient non scolarisés. Ces enfants, ils ont maintenant repris le chemin de l'école et avec eux, des enseignants, qu'on appelle les nouvelles unités, qui ont accédé à l'enseignement, des enseignants qui autrefois n'étaient pas pris en compte par l'État, les non payés, et que l'État a décidé de prendre en charge.
Alors grâce en effet à cette réforme en faveur de la gratuité de l'enseignement dans les écoles primaires, les parents d'élèves ne payent plus. Désormais, c'est l'État qui paye les enseignants. Mais ceux-ci menacent de se mettre en grève car ils disent qu'ils sont moins bien payés qu'avant.
Vous savez, les enseignants, quoi qu'il en soit, il y a une évolution positive en termes de rémunération, mais certes, les enseignants pensent que, et ils n'ont pas tort, qu'ils méritent mieux. Et pour qu'ils méritent mieux, il faut que l'État et les finances de l'État le permettent. Donc, il faut tout faire pour que l'économie marche, mais il faut quand même imaginer ce qu'étaient les parents il y a quelques temps. Parce que lorsque nous avons mis 4 millions d'élèves dans l'enseignement, nous avons donné du pouvoir d'achat aux parents. Les parents qui autrefois devaient se débrouiller, avoir des difficultés à trouver de quoi payer les études des enfants, cette difficulté-là, elle est en partie éludée.
Vous aviez prévu pour l'année 2020 un budget de 2 milliards de dollars pour les enseignants, mais apparemment vous en êtes très loin, non ?
Non, vous savez, nous avons commencé quand même l'année sur une belle pente et nos prévisions étaient des prévisions tenables. Mais la Covid est passée par là et les économies qui sont extraverties, comme la nôtre, sont les économies qui sont les plus frappées. Toutes nos recettes, les plus grandes recettes, je veux dire, d'exportation qui servent à soutenir notre balance des paiements, elles ont été affectées par la Covid puisque la demande en termes de matières premières a baissé. Donc nous avons les résultats qu'on a, c'est-à-dire que les rentrées fiscales n'ont pas été à la hauteur de ce que nous avions prévu dans notre budget, de ce que nous pouvions imaginer.
Vous aviez prévu pour 2020 un budget de 11 milliards de dollars. Quelle sera la réalité au terme de cette année 2020? Vous serez bien en dessous, évidemment.
Il est certain, parce que moi je suis à l'école de la vérité, je mentirais si je vous disais que le budget de 11 milliards sera tenu. Donc les prévisions, nous pensons pouvoir tenir dans les environs de 10 milliards. Mais si l'économie marche bien et les réformes sont rapidement mises en place. Mais les choses prennent un peu du temps, nous pourrons peut-être être dans les eaux de 7 milliards, quelque chose dans le genre.
Autour de 7 milliards.
Hein. Entre 7 et 8, je pense que ce serait raisonnable.
Alors vous dites que vous luttez contre les gaspillages. Est-ce que le premier des gaspillages actuellement, ce n'est pas le train de vie de l'État congolais? Vous êtes, monsieur le ministre, quelques 65 ministres et vice-ministres. C'est un gouvernement pléthorique. Est-ce qu'on va vers un remaniement qui permettra de réduire ce nombre très important?
Vous m'avez parlé du train de vie de l'État. C'est vrai que ce que vous avez dit en ce qui concerne le nombre de ministres, c'est une réalité, mais il nous fallait aussi tenir compte du contexte. Nous devrions satisfaire toutes les composantes de la coalition qui était là. Mais nous sommes assez responsables pour savoir adapter notre train de vie par rapport aux moyens à notre disposition. Et le président de la République n'est pas du tout en situation de s'arrêter à la position qui est la nôtre aujourd'hui.
Vous dites que le président ne va pas rester sur sa position actuelle. Ça veut dire qu'il va y avoir bientôt un remaniement ?
Non, c'est-à-dire que c'est le président est le seul juge de l'opportunité d'un remaniement. Lorsqu'il y a des adaptations qui peuvent être nécessaires et même possibles. Et c'est au chef de l'État d'apprécier et au Premier ministre. Ces ajustements seront faits à un moment ou à un autre. On ne sait pas à quel moment exactement, parce que cela ne dépend que du président de la République et du Premier ministre.
Le Premier ministre Sylvestre Ilunga est pro-Kabila et le président Tshisekedi a profité d'un déplacement en province de Sylvestre Ilunga pour faire un vaste remaniement dans l'armée sans la contre-signature de son Premier ministre. C'était le mois dernier. Est-ce que ce n'est pas le signe que le président n'a pas confiance dans son Premier ministre ?
Non, moi je pense vraiment que ce problème est derrière nous. Si il était un problème aussi gravissime, je crois que cela aurait affecté le fonctionnement du gouvernement. Mais moi qui suis membre du gouvernement, qui participe au Conseil des ministres, je peux vous dire que cette situation a été réglée entre les deux têtes de l'exécutif. Et donc les incompréhensions qui ont pu avoir lieu ça et là ont été surmontées dans l'intérêt du pays d'ailleurs.
Est-ce que la tension entre les deux hommes est terminée?
Moi, je ne pense pas qu'il y ait eu tension entre les deux hommes. C'est un problème peut-être de susceptibilité, mais je pense qu'en véritable responsable, ils ont aplani ces incompréhensions. Il faut parfois dans la vie des gens de petits couacs pour que les gens se ressaisissent et disent qu'ils n'ont que ce pays et diriger ce pays. Ils ont conscience qu'ils doivent le faire avec responsabilité et c'est ce qu'ils ont toujours fait depuis qu'ils sont au pouvoir.
Il y a eu d'autres couacs, monsieur le ministre. Un autre vrai couac, c'est la tentative de mise sous tutelle des procureurs et du parquet par le ministre de la Justice, ce qui a provoqué la colère du chef de l'État et la démission du ministre Pro Kabila de la Justice. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Bon, c'est vrai que le ministre de la Justice, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté sa démission et finalement, on entend sûrement qu'il sera pourvu à cette fonction dans les jours ou semaines qui viennent. Mais il a tiré les leçons de son comportement, de son attitude. Le président de la République a montré aussi qu'il avait une façon de gérer ce pays. Il ne pouvait pas s'accommoder de ce comportement de la part des ministres.
Autre pomme de discorde, le futur de la commission électorale, la CENI. Les pro-Kabila ont voulu faire nommer l'ex numéro 2, Ronsard Malonda, mais le président Tshisekedi ne veut pas en entendre parler. Alors quelle est la solution?
Non, la solution, c'est d'arriver à un large consensus sur cette matière. Et donc, moi, je pense, et la position du chef de l'État est claire là-dessus, il veut qu'il y ait un consensus le plus large possible. Or, tout laisse croire que ce consensus n'a pas été obtenu. Il y a ceux qui sont passés à l'acte et qui pensent qu'on doit passer à l'acte désignation des animateurs rapidement. Il y en a d'autres qui pensent qu'il faut d'abord écouter le rapport de la CENI, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et donc, il faut absolument qu'on recherche un consensus le plus large possible avec des personnes qui soient au-dessus de tout soupçon, de manière à rassurer tout le monde.
Peut-on dire alors que vous êtes hostile à la nomination dès aujourd'hui de Ronsard Malonda à la tête de la CENI?
Non, je ne peux pas être hostile. Je n'ai aucune raison de l'être, surtout que la personne semble avoir des qualités. Mais le problème, c'est qu'il faut que les gens de tous bords arrivent à se dire « tel monsieur qu'on va mettre là va rassurer tout le monde ». Lorsque le consensus n'est pas réalisé sur votre nom, je crois qu'il faut prendre la mesure de la chose.
Après tous ces couacs, comme vous dites, de ces deux derniers mois, est-ce qu'on n'est pas en train de passer d'un gouvernement de coalition à un gouvernement de cohabitation entre le FCC pro-Kabila et le cash pro-Tshisekedi?
Non. La coalition demeure la pierre angulaire des institutions au cours de ce mandat de 5 ans. Parce qu'il n'y a pas d'alternative à cela. Ce n'est pas de gaieté des cœurs que le président Tshisekedi et le président Kabila ont accepté l'un et l'autre cette formule-là. Parce que, en dehors de ça, excusez-moi l'expression, c'est la chienlit. L'intérêt du pays veut que nous soyons dans cette coalition-là plutôt que dans une cohabitation qui serait porteuse des germes de dislocation de ce pays. Cette coalition-là, nous l'avons souhaitée entre les gens du FCC et nous, le cash. Et donc, naturellement, comme tout enfantement, il y a toujours des douleurs. Mais au fur et à mesure qu'on avance, parfois les grands amours sont aussi ceux qui sont empreints de quelques petits soucis de couple.
Vous dites « nous, le cash » parce que vous avez été le porte-parole de l'UNC de Vital Kamerhe et que vous avez donc participé à la création du cash et que vous avez donc voté Tshisekedi en décembre 2018. On s'approche de 2023, Félix Tshisekedi va vouloir se représenter et Joseph Kabila va vouloir sa revanche, donc il va se représenter lui aussi. Est-ce que plus les années vont passer, plus vous allez être rivaux entre cash et FCC?
Non, je pense pas, parce que cette coalition, c'est une coalition de raison, parce que nous avons tous compris, FCC comme cash, que en dehors de cette coalition, ce serait des troubles, il y a toujours des petits couacs, mais l'heure n'est pas à la rupture, parce que nous pensons que la rupture, c'est vraiment la chienlit.
Jolino Makelele, vous avez été le porte-parole de l'UNC et il y a 2 mois, votre leader, Vital Kamerhe, a été condamné à 20 ans de prison pour détournement de fonds publics. Est-ce que vous ne vous sentez pas trahi par le président Tshisekedi?
Non, d'abord, je dois dire une chose, ce que nous voulons, l'état des droits, c'est aussi des principes. Il faut respecter la présomption d'innocence, les droits de la défense doivent être reconnus. Nous pensons qu'une justice équitable doit toujours être l'élément principal et ça ne pose aucun problème sur cette base-là, et la justice, si elle est bien rendue, elle sera acceptée par la population.
Et 20 ans de prison pour Vital Kamerhe, c'est équitable ?
Bon, les procédures sont ouvertes. Lui-même a estimé, et beaucoup d'autres avec lui, que ce qui a été prononcé ne correspondait pas à l'attitude qu'il a eue vis-à-vis pour servir ce pays. Le reste, bon, il appartient à la justice d'apporter les preuves de sa culpabilité au niveau de l'appel, puisque M. Caméré a interjeté appel. Mais ceci étant dit, je le sens assez responsable pour ne pas commettre tout ce qui lui a été reproché. Et je pense qu'il a des bonnes raisons de penser qu'il est innocent, comme beaucoup d'autres le pensent aussi.
Alors, si vous êtes persuadé de l'innocence de Vital Caméré, est-ce que vous pourrez rester au gouvernement si jamais il est à nouveau condamné en appel ?
Nous sommes partisans de l'état des droits. Donc, ce n'est pas à nous, si vous parlez de mes origines politiques, ce n'est pas à nous de contester les éléments qui constituent l'état des droits. Si une justice indépendante prononce un verdict, nous ne pouvons que succomber. Mais si tel n'est pas le cas, il appartient à la personne qui est condamnée de se pourvoir en appel ou en cassation, les cas échéants. M. Caméré, il tient à sa parole. Il a dit qu'il est fidèle au président Tshisekedi, il est fidèle à cette coalition. Et donc, il n'y a pas de raison pour nous de prendre une voie autre que celle qu'il a tracée.
Jolino Makelele, vous êtes le ministre de la Communication et des Médias. Or, Journaliste en danger dénonce régulièrement des persécutions contre les journalistes congolais. Ainsi encore, ces derniers jours, plusieurs journalistes de la province du Sankuru ont été interpellés dans le cadre de leur travail et leurs médias fermés. Comment vous réagissez ?
D'abord, j'aurais bien voulu que vous commenciez par dire qu'il y a quand même un progrès par rapport à la situation passée. Vous n'avez plus des médias qui sont fermés, vous n'avez plus des journalistes qui sont intimidés. Moi, je ne ferme aucune radio, je n'interdis pas les réseaux sociaux de fonctionner. Et lorsque je suis saisi par ces genres d'informations, je ne me laisse pas guider par autre chose que par le souci de faire en sorte que cette presse soit effectivement une presse libre mais responsable.
Il n'empêche, dans le Sankuru, il y a quelques jours, plusieurs journalistes ont été arrêtés.
Oui, je vous dis, et je ne suis pas resté sans réaction. Je suis ce dossier de près. Un rapport a été demandé au niveau de la province de Sankuru et j'ai saisi le CESAC, qui est l'organe de régulation de la presse, et donc j'attends un rapport là-dessus. Dès que j'aurai ce rapport, je prendrai mon courage à deux mains. C'est-à-dire que si il s'avère que ce sont des voies de fait, des comportements particulièrement brutaux de la part de leurs auteurs, eh bien des poursuites seront engagées. Parce que l'État ne peut pas cautionner des comportements de ce genre-là à l'égard de ceux qui ont la responsabilité d'informer la population. Mais s'il advenait qu'un journaliste commette des actes répréhensibles, et là, évidemment, ils rendront des comptes au niveau de la justice.
Monsieur le ministre, merci.